Chapitre 42. Panique sur les quais. (8h45, espace des marégraphes). Maline était restée un quart d'heure à discuter avec le commissaire et le profiler. Difficile de savoir si ce Joe Roblin cachait son jeu ou non. En tous les cas, la collaboration étroite avec le commissaire risquait fort de faire des étincelles. Elle avait décidé de se diriger à pied vers l'espace des marégraphes. Le commissaire devait, de son côté, déposer Joe Roblin au commissariat avant de se rendre à son tour à la conférence de presse. En descendant la rue Jeanne d'Arc, Maline s'étonna de l'intense activité des employés municipaux. On installait, en travers de la rue, tous les 50 mètres, fanions et banderoles. Maline fit un effort de mémoire. C'est vrai, on était le 12 juillet, le jour prévu pour la parade des marins en ville. Plusieurs milliers de marins allaient défiler dans les rues de Rouen au son des fanfares de plus d'une vingtaine de pays. Maline se souvint que, lors des armadas précédentes, la parade des équipages dans les rues de Rouen tenait autant du défilé militaire que du carnaval, dans un joyeux mélange de costumes, de langues et de musique. Visiblement, le défilé n'avait pas été annulé. C'était sans doute la bonne solution, la meilleure façon de rendre hommage aux trois victimes. Pourtant, Maline, en arrivant sur les quais de la Seine, remarqua que d'autres employés étaient au contraire chargés de mettre en berne les drapeaux français, européens, normands et de toutes les autres nationalités qui flottaient habituellement sur les ponts et sur les bords du fleuve. Cette année, le défilé tiendrait davantage du cortège funèbre que du carnaval. Une marche sous haute surveillance, constata aussi Maline. Plus d'une dizaine de camions de CRS étaient alignés le long des quais. Maline arriva en vue de l'espace des marégraphes. Les anciens hangars Eiffel avaient été rénovés depuis un an en un lieu de réception mêlant harmonieusement, entre modernité et tradition, fer, briques, bois et verre. Maline se fit la réflexion qu'elle était rarement venue à pied jusqu'ici. En longeant la Seine, elle observa les trois fameux marégraphes, les tours chargées d'indiquer aux navires la hauteur d'eau disponible. L'un des marégraphes, magnifiquement restauré dans un jeu de briques multicolores, jouxtait la salle de réception. Elle l'admira un instant lorsque son regard fut attiré par une plaque de marbre gravée sur le marégraphe. Elle s'approcha et lut. Ici, en Seine devant Bapaume, du 24 au 31 juillet 1800, Robert Fulton procéda à la première expérience de navigation sous-marine sur un navire insubmersible, le Nautilus, construit à Rouen sur ses plans. Le Nautilus, le premier sous-marin, testé à Rouen dans la Seine. Elle n'avait jamais entendu parler auparavant de cette histoire. Pourtant, la plaque sur le marégraphe semblait ancienne. Elle regarda un instant l'eau grise du fleuve, toute proche. Elle se fit la réflexion qu'en plus de l'hélicoptère et du catamaran F1, le commissaire Paturel avait négligé l'hypothèse d'un déplacement en sous-marin entre Caudebec-en-Caux et les quais de Rouen. Cela pouvait expliquer l'absence complète de témoins, à condition, bien entendu, de trouver un sous-marin fonçant sous l'eau à plus de 250 km à l'heure. Elle se secoua. Tout ceci tenait de la science-fiction. Il faisait déjà trop chaud ce matin. Elle n'avait enfilé qu'une robe légère et se sentait déjà poisseuse. La fatigue, sans doute, la peur aussi, et une sorte d'amertume indicible. Elle ne cessait de penser à ce géant blond, ce fugitif, le suspect numéro un, dont chaque flic de Rouen avait un portrait robot dans la poche. Un portrait robot grossier, inutile, car elle n'avait pas été capable de se rappeler son visage. Elle marcha quelques mètres et entra enfin dans la salle de réception de l'espace des marégraphes. Un brouhaha immense succéda au silence des quais. Il y avait du monde, du beau monde. Maline connaissait au moins un tiers des journalistes de la salle, ce qui signifiait que les deux autres tiers couvraient la conférence pour des médias nationaux ou étrangers. Maline compta plusieurs dizaines de caméras et presque autant de micros posés sur la table de la tribune. Il s'agissait d'une tribune improvisée, une simple table en bois. Maline y reconnut la plupart des protagonistes. Olivier Levasseur était sobrement vêtu d'un costume sombre. Il avait également chaussé des lunettes de vue qui atténuaient un peu l'intensité de son regard. Sa prestance tranchait avec la fatigue évidente du commissaire Paturel, assis à sa gauche, les yeux rivés sur son téléphone, visiblement impatient que la conférence débute. Tout au bout de la tribune, à côté du député maire et du vice-président de la Chambre de commerce, Maline reconnut également le général Sudoku, peu à l'aise dans cet exercice, jetant des regards inquiets à sa mère, assise au premier rang, à quelques chaises de l'homme d'affaires Nicolas Neufville. Lui aussi était donc là. Il y avait aussi beaucoup de policiers à toutes les issues. Maline reconnut les inspecteurs Ovid Stepanou et Colette Cadino. Maline cherchait à trouver une place assise, mais peinait à avancer, car diverses relations, rencontrées il y a plus ou moins longtemps, tenaient à la saluer et à échanger quelques mots. Aucun n'était réellement au courant des événements. Aucun n'avait vécu de l'intérieur le drame de ces dernières heures. Ils n'avaient aucune idée de ce qui était en train de se jouer. La plupart semblaient tout à fait ravis de se retrouver là. Au milieu des rangées de sièges, une silhouette se leva et lui adressa un grand signe de main. Maline reconnut Oreste Armano-Baudry. Il lui avait gardé une place à côté de lui. Maline n'eut pas le choix, elle se faufila jusqu'à lui dans les rangs de chaises. Immédiatement, Oreste lui parut anormalement sûr de lui. Son regard bleu clair avait repris sa dureté habituelle. Il semblait à la fois trop excité et trop empressé auprès de Maline. Il avait par contre le teint frais d'un garçon qui a dormi toute la nuit comme un bébé. La faculté de récupération était un privilège de la jeunesse que Maline regrettait de plus en plus. À la tribune, on tapota sur un micro et le brouhaha cessa progressivement. Olivier Levasseur s'exprima le premier, très professionnel. Il présenta ses condoléances aux familles des marins et aux équipages et précisa, avec compassion mais fermeté, qu'en hommage aux victimes, le programme de l'Armada ne serait pas modifié. « Show must go on », pensa Maline. Olivier avait été parfait, sobre, sensible, crédible. Un grand professionnel. Oreste se pencha vers elle. « C'est avec lui que tu as couché ?»« Quel con ! Et il la tutoyait maintenant !»«
Avec lui, entre autres !»
Oreste insista. « T'as raison, beau mec !» Le président de l'Armada parlait à son tour. Les officiels allaient se succéder, tenant tous le même discours compassé mais rassurant. Oreste se pencha une nouvelle fois vers Maline. Il n'allait donc pas la lâcher. « Tiens, Lisa, » fit le journaliste en lui tendant un papier. « C'est quoi ?»« Mon article pour Le Monde. » Le vice-président de la Chambre de commerce s'était lancé dans un discours trop long et complètement hors sujet sur l'avenir du port. Ou bien il noyait délibérément le poisson. Le niveau sonore de la salle remonta sensiblement. Les journalistes n'attendaient qu'une chose, l'intervention du commissaire Paturel, pour pouvoir le bombarder de questions. Maline en profita pour parcourir le texte d'Oreste. Le journaliste parisien révélait toute l'affaire jusque dans ses moindres détails. Il poursuivait sa démonstration en mettant clairement en cause la police, l'accusant de dissimulation. Il concluait par l'affirmation qu'il n'y avait pas un tueur sur l'Armada, mais plusieurs, organisés, déterminés. Sans doute une entreprise terroriste internationale, profitant de dizaines de nationalités présentes sur les quais pour fomenter un attentat à l'occasion de cette manifestation populaire. Maline se tourna vers Oreste furieuse. « Tu ne vas pas écrire ça ! Ça va être la panique !» Leurs voisins se retournèrent vers eux avec des grands « Chut !» Ils n'y prêtèrent aucune attention. « Et alors ?» répliqua Oreste. « Notre rôle, c'est d'informer, non ?»«
Pas de raconter n'importe quoi !» Complot, terrorisme, attentat, c'est du pur sensationnalisme pour vendre ton article de merde et tirer toute la couverture à toi. Je t'interdis de publier ça.
Oreste Armano-Baudry avait retrouvé la raideur dominatrice de la veille lorsque Maline l'avait croisé pour la première fois à la sortie du train. Ce n'est pas la peine de t'énerver pour cela, Maline. De toutes les façons, j'ai envoyé l'article au Monde ce matin. Il est sûrement déjà en train d'être mis en page en ce moment.
Téléphone pour annuler!
Plutôt crever.
Maline sentait qu'elle allait faire bouffer son article au jeune journaliste lorsque son téléphone sonna. Des dizaines d'yeux courroucés se tournèrent vers elle. À la tribune, c'était au tour des élus de prendre le micro. Maline bouscula une rangée de chaises et monta sur la mezzanine de l'espace des marégraphes pour répondre.
« Mademoiselle Abruzzi ?»«
Oui ?»«
C'est Ramphastos. »
Elle avait tout de suite reconnu sa voix inimitable. Qu'est-ce que le vieux conteur pirate pouvait bien lui vouloir ?
« Je viens d'apprendre pour les deux marins, le russe et l'indonésien, leur assassinat. Il faut qu'on se voie, mademoiselle Abruzzi. J'ai des choses à vous dire. »«
Quelle sorte de choses ?»«
Des choses qui pourraient peut-être stopper l'hémorragie, si vous voyez ce que je veux dire. Sauver quelques vies. »
« Ok, on se voit quand vous voulez, je suis dispo. »«
Ce soir, vous pouvez. À ce moment-là, je serai suffisamment bourré pour vous parler et pas encore trop pour raconter n'importe quoi. »
Ce soir, Maline fut déçue. Il lui fallait davantage d'informations, tout de suite. « Dites-moi en plus. » Ramphastos ne répondit pas. Maline regarda devant elle. De la mezzanine de l'espace des marégraphes, la vue sur la Seine et les quais était somptueuse. Un poste de surveillance idéal. Maline insista. « Si vous savez des choses qui peuvent sauver des vies, mieux vaut parler tout de suite. Mieux vaut en informer la police. » Le rire gras de Ramphastos secoua le téléphone.
« Attention, mademoiselle Abruzzi. Vous m'avez fait bonne impression l'autre soir. Vous m'avez peut-être même sauvé la vie, mais ne poussez pas le bouchon. N'allez pas demander à un pirate de parler aux flics. »
« Il s'agit de vies à sauver, Ramphastos. »
40 ans d'anarchisme, mademoiselle Abruzzi, à côté de marins malais, maltais, chinois, capverdiens, iraniens, chiliens, à combattre toutes les marines nationales du monde, tous les uniformes et tous les drapeaux autres que le noir. Tu parles peut-être à un poivreau, ma jolie, mais un poivreau qui n'a pas encore renié tous ses idéaux, la seule chose qui lui reste.
Maline ne voulait pas le perdre. Elle fit rapidement machine arrière. « Ok, ok, on fait sans les flics, je viens seul. Où ?»«
Au Libertalia. Ça me semble l'endroit approprié. »
Il partit dans un nouveau rire gras. Contrairement à ce qu'il avait dit, il semblait déjà avoir bu. « Je peux venir avant, si vous voulez, tout de suite même. »«
Du calme, ma mignonne. C'est encore moi le capitaine. C'est moi qui tiens la barre. Rendez-vous au Libertalia à 18h. D'ici là, on va pas jouer à la conne. » Ne dis rien à la police. Et surtout, écoute-moi bien, ne cherche pas à t'approcher trop près de la vérité. Attends ce soir. Il ne faut pas, surtout pas, chercher à tout savoir sans avoir été préparé, sans connaître ce qui est en jeu. Ceux qui se croient plus forts, qui ne respectent pas les règles, la malédiction, la punition s'abat sur eux. Écoute-moi bien, jeune fille. Si tu veux tout arrêter, éviter le prochain meurtre, il faut t'en remettre à moi, ce soir, au Libertalia. 18h. D'ici là, ne bouge pas un cil.
Il raccrocha. De son esplanade, Maline regarda un instant la foule compacte qui se pressait déjà autour des voiliers. Pour le moment, l'affluence n'avait pas baissé. Au contraire. Les meurtres avaient peut-être encore davantage suscité la curiosité des touristes. Jusqu'à quand? Quand la curiosité un peu malsaine allait-elle laisser place à la panique? Maline se demanda ce qu'elle devait penser de l'appel de Ramphastos. Était-ce le délire d'un ivrogne? Était-ce un piège? Devait-elle en parler à la police? Devait-elle attendre ce soir? Ramphastos était-il un ivrogne inoffensif ou un dangereux anarchiste? Tout allait trop vite. Comment faire les bons choix? Dans l'immédiat, Maline prit la décision de ne pas parler à la police. Ramphastos ne parlerait qu'à elle et ne lui parlerait même plus du tout si elle mouchardait. Attendre ce soir, 18h. Cela allait venir vite. Mais d'ici là, contrairement au conseil du vieil ivrogne à propos de cette malédiction, elle comptait bien s'approcher le plus possible de la vérité. Maline revint dans la salle. On était passé aux choses sérieuses. Le commissaire Paturel, ruisselant, expliquait et réexpliquait les méthodes de la police, l'ampleur des forces déployées, les avancées heure par heure de la police scientifique. Il n'était pas très convaincant. Les journalistes posaient des questions par rafale. Le commissaire ne cherchait même plus à les esquiver, mais ne donnait aucune réponse. Maline bouscula à nouveau la rangée de chaises devant elle et retourna s'asseoir près d'Oreste. Le journaliste parisien semblait jubilé de la longueur d'avance qu'il possédait sur tous les autres reporters. Le commissaire n'avait abordé aucun des points cruciaux de l'affaire. Dans la salle, un nouveau journaliste se leva pour prendre la parole. Maline le connaissait. Il s'agissait de l'animateur d'une radio très locale, destinée principalement à un public d'adolescents. Elle le savait à peu près capable de tout dans le domaine de la provocation potache. Pourtant, en l'occurrence, l'animateur adoptait un ton catastrophé. « J'ai entendu dire qu'on a retrouvé un autre cadavre de marin, ce matin, sur les quais rive gauche, à côté des silos. » Toutes les personnalités de la tribune blêmirent. La panique gagna la salle comme une traînée de poudre. Un nouveau meurtre ? Le provocateur agita un magnétophone. Il enregistrait toutes les réactions de la salle. Il profita de l'effet de surprise pour continuer. « Un cadavre à côté des silos. Je crois qu'on a affaire à un céréal killer. » Il y eut quelques rires, qu'une bronca de protestation couvrit. Le jeune provocateur s'en fichait. Il tenait son effet qu'il repasserait en boucle sur sa radio locale. Paturel, d'un signe de tête, indiqua à deux policiers de sortir manu militari le comique. Après cet intermède, de nouvelles questions fusèrent, sérieuses mais toujours très éloignées de la réalité. Heureusement. Soudain, ce que Maline craignait depuis le début de la conférence de presse se produisit. Oreste se leva. Il toisa la salle comme une rockstar toise son public. Maline n'eut pas le temps de réagir, mais au regard déterminé d'Oreste, elle sut qu'il n'avait pas pu résister. La gloire, les interviews des télévisions du monde entier, reprises dans des centaines de journaux, sur le net et dans la presse, son nom apparaissant brusquement dans toutes les bouches qui comptent, qui font l'information, qui font les opinions. Tout ceci était à portée de main à cet instant. Il suffisait qu'il raconte ce qu'il savait. L'Armada était une immense caisse de résonance, un formidable tremplin pour sa carrière naissante. Son article dans Le Monde, dans quelques heures, n'en serait que plus attendu. Son intervention orale ne serait qu'un teasing. Le commissaire Paturel, en voyant Oreste Armano-Baudry se lever, comprit que la conférence de presse allait mal tourner. Mais il était trop tard. Oreste commença d'une voix posée, ne traduisant aucune appréhension. « Oreste Armano-Baudry, du Monde. Monsieur le commissaire, je crois que vous ne dites pas la vérité. À vrai dire, je ne le crois pas. Je le sais. » Dans les 2 minutes qui suivirent, Oreste révéla absolument tout ce qu'il savait, insistant sur les aspects les plus sordides et orientant toutes ses conclusions vers l'hypothèse de l'organisation criminelle terroriste, dont on ne connaissait ni l'importance ni le but, mais dont on savait qu'elle n'hésitait pas à tuer les témoins gênants pour mettre à exécution son plan. Oreste Armano-Baudry n'eut pas à affronter les foudres d'un Olivier Levasseur qui avait retiré ses lunettes et semblait prêt à le fusiller au laser vert de ses yeux, d'un commissaire Paturel au bord de l'implosion, d'un général sudoku qui tordait nerveusement ses phalanges. Son téléphone portable sonna et il quitta la salle en s'excusant. Cet appel était prémédité, il faisait partie de la mise en scène. Maline en était certaine. Le journaliste s'excusa en demandant aux personnes devant lui de se pousser, se retourna une dernière fois vers Maline en lui lançant un clin d'œil qu'il souhaita peut-être complice, puis sortit, le portable à la main. Maline n'osait plus lever les yeux. C'est elle qui avait fait entrer le loup dans la bergerie hier soir. À peine Oreste Armano-Baudry sortit, une forêt de doigts se leva. Olivier Levasseur tenta de calmer le jeu en indiquant que l'on allait répondre à toutes les questions, une par une, que le commissaire allait tout expliquer. Hélas, pour le chargé de relations presse, au même moment, le téléphone portable du commissaire sonna. « Excusez-moi, » fit le commissaire Paturel confus. Il se leva et s'éloigna, faisant d'un mouvement de tête signe à l'inspectrice Colette Cadinot de prendre sa place en tribune. C'était visiblement important. Pourtant, l'esquive involontaire du commissaire Paturel fut ponctuée de sifflets et de rires goguenards dans la salle. Olivier Levasseur allait reprendre la main et définir le tour de prise de parole lorsque Colette Cadinot se leva à la tribune. « Droite !» Déterminé. Messieurs les journalistes, je vous prie de ne pas tenir compte de cette histoire absurde d'organisation criminelle terroriste. nous avons les preuves formelles, les plus scientifiques, que nous avons affaire à un meurtrier, et un seul. Nous avons des témoins oculaires de ce meurtrier. Nous avons établi un portrait robot qui a été diffusé à l'ensemble de la police, qui n'a jamais été déployé en plus grand nombre sur le territoire de l'agglomération. Nous connaissons de plus son profil génétique. Ce suspect est blessé. Nous savons qu'il est le dernier représentant d'un groupe de 4 associés et qu'il a tué ses 3 complices. Tout risque d'autres meurtres sur l'Armada est donc écarté. Nous sommes néanmoins en présence d'un criminel en fuite, dangereux mais recherché. Il est sans doute déjà loin de l'agglomération rouennaise, mais il ne saurait nous échapper longtemps. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Je vous remercie. Je pense que nous avons tous du travail. Vous pourrez trouver en sortant des photocopies du portrait robot du suspect, ainsi que le numéro vert à appeler en cas d'urgence. » Les voisins de Malines ne parurent pas convaincus du discours de l'inspectrice Colette Cadineau, et il semblait assez représentatif de l'opinion générale de la salle. On grogna, on protesta, mais au final on se résigna assez vite, car l'inspectrice Cadineau n'était pas du genre à revenir sur sa décision, et tout le monde l'avait compris. Sous les remerciements polis d'Olivier Levasseur, la salle se vida rapidement. Effectivement, tous les journalistes avaient beaucoup de travail. Malines tenta de se frayer un chemin jusqu'à la tribune. Le général Sudoku, qui n'avait pas dit un mot, était en grande conversation avec une dizaine de personnes, sans doute des bénévoles responsables des commissions de l'Armada. Olivier Levasseur discutait pour sa part avec Nicolas Neufville, qui, lui non plus, n'avait pas dit un mot pendant la conférence de presse. Que pouvait bien encore raconter cet homme d'affaires au chargé de relations presse de l'Armada? Malines s'approchait encore de la tribune, en direction d'Olivier Levasseur, lorsque l'inspecteur Ovid Stepanou l'intercepta.
« Sympathique, votre ami journaliste. Pas du tout le genre à cracher dans la soupe. »
« Désolé, j'ai mal évalué la situation hier soir. »«
Il me semble, oui. Remarquez, c'est un peu ma faute aussi. La thèse du complot organisé, d'une chasse-partie anarchiste, c'est la mienne depuis le début. Mais là, votre ami journaliste a poussé le bouchon un peu loin. »
Malines eut envie de préciser que ce n'était pas son ami. Mais à quoi bon ?
Le commissaire est parti ? Se contenta-t-elle de demander.
« Oui, on a signalé votre motard blond rive gauche, à Grand-Quevilly. Il coordonne la recherche avec le stagiaire, Jérémy Mézinguel. Il peut, il est en forme, ce Mézinguel. Il est le seul qui ait dormi toute la nuit. Il n'a pas entendu son téléphone, ce con. »«
On a repéré le motard blond ?» demanda Malines d'une voix pleine d'espoir.
« Oui, c'est seulement la 17e fois depuis ce matin. » Depuis la diffusion du portrait robot, il ne fait pas bon être grand, blond et se balader à moto dans Rouen.
Malines, déçue, laissa Ovid Stepanou. Elle voulait parler à Olivier, au moins un instant, mais il était toujours occupé avec Neufville. Sous les ordres de Sudoku, des bénévoles rangeaient toutes les chaises et les empilaient dans un coin. Malines observa Olivier Levasseur quelques dizaines de mètres devant eux. Elle repensa aux mots du commissaire, ce matin. Trop propre sur lui, trop pour être honnête. Oui, elle voyait bien ce qu'il voulait dire. Olivier Levasseur possédait un exaspérant contrôle de lui-même, en toutes circonstances. C'est sans doute ce qui attirait Malines chez lui. La curiosité, l'envie de découvrir qui était l'homme lorsqu'il perdait le contrôle. Et aussi une envie folle de refaire l'amour avec lui. Malines avait enfilé ce matin une robe à fleurs échancrées, légère. Elle aurait aimé qu'il lui jette un regard, au moins, mais il était tout à son job. Il sembla à Malines qu'Olivier Levasseur allait tourner la tête vers elle lorsque son téléphone portable sonna à nouveau. Elle jura, mais décrocha tout de même. « Oui ?»«
Malines Abruzzé, ici Joe Roblin, ce matin à la gare, vous vous souvenez ?»«
Comment oublier ?»«
J'aimerais vous parler. »
Décidément, c'était la journée des rendez-vous. « Quand ?» Le profiler répondit brusquement, comme animé par l'urgence.
« Tout de suite. »«
Où ?»«
Lettre Saint-Maclou, ça vous va ? Dans 15 minutes. »«
Vous avez du nouveau ?»«
Plus que ça. J'ai la solution pour le double meurtre. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important pour l'instant, c'est votre sécurité personnelle. »